Très bon réveil à tous. Voici le journal de Catherine Dutu. Bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. C'est l'un des djihadistes les plus recherchés au monde, un proche des frères Kouachi, les terroristes de Charlie Hebdo. Le français Peter Chérif, 36 ans, a été arrêté par la police à Djibouti. Il était inscrit sur la liste noire du département d'État américain depuis septembre 2015.
La lutte contre les djihadistes en Syrie cette fois, c'est une mission accomplie aux yeux de Donald Trump. Nous vous en parlions hier, le président des États-Unis a décidé de retirer les troupes américaines du pays. Grave erreur. Selon le chef du Pentagone, le général Mattis, claque la porte de l'administration Trump.
Et il explique les raisons de son départ dans une lettre analysée par notre correspondant aux États-Unis. Pendant ce temps, les Européens, eux, s'inquiètent du retrait des forces spéciales américaines de Syrie. Explication dans un instant. À la une encore, 8 cercueils alignés contre des barrières devant l'hôtel de ville de Marseille. Conseil municipal tendu hier pour le maire Jean-Claude Gaudin, jugé responsable de l'inaction depuis des années contre le logement insalubre.
Et puis dans une dizaine de minutes, Catherine, la question du jour, faut-il revoir la conception de l'univers? Nous poserons la question à Françoise Combes, elle est astrophysicienne et professeure au Collège de France.
C'est donc l'un des djihadistes les plus recherchés au monde. Le français Peter Chérif, 36 ans, a été arrêté par la police à Djibouti. Ce proche des frères Kouachi, les terroristes de Charlie Hebdo, était inscrit sur la liste noire du département d'État américain depuis septembre 2015. Peter Chérif, membre de la cellule dite des Buttes-Chaumont, pourrait aussi avoir été en contact avec Hamedi Coulibaly, le tueur de l'hypercachère en janvier 2015. Son parcours de djihadiste retracé par Anne-Laure Bouzige.
C'est un des vétérans du djihad en France. Peter Chérif est un ami intime des frères Kouachi, les auteurs de l'attentat de Charlie Hebdo. Ils se sont rencontrés tous les trois dans le quartier des Buttes-Chaumont à Paris à la fin des années 90. Une dizaine d'années plus tard, le délinquant bascule vers une idéologie radicale. Il s'engage pour combattre en Irak où il sera capturé à Fallujah. Il passe par la prison d'Abu Ghraib, près de Bagdad, et s'évade en 2007 d'une prison irakienne pour aller en Syrie. Il se rendra finalement en 2008 aux autorités françaises et sera jugé en janvier 2011. Mais le dernier jour de son procès, où il sera condamné à 5 ans de prison, il disparaît et parvient à quitter le territoire français. Il sera localisé quelques mois plus tard par les services de renseignement au Yémen, connu également sous le pseudonyme d'Abu Hamza. Les services français le soupçonnent aussi d'avoir été en contact avec Hamedi Coulibaly, le tueur de l'hypercachère.
Peter Chérif, parfois présenté comme le commanditaire de l'attentat de Charlie Hebdo, mais ce n'est pas une certitude encore établie par l'enquête, précise Mathieu Suc, journaliste à Mediapart, spécialiste de la filière dite des Buttes-Chaumont.
C'est vraisemblablement pas le commanditaire. Le commanditaire, c'est semble-t-il, en tout cas, ça avait été revendiqué par les Kouachi et même par Al-Qaïda péninsule arabique. C'était Anwar al-Awlaki, un prédicateur américain. En revanche, Peter Chérif peut être considéré, enfin, en tout cas, il y a une interrogation sur le rôle qu'il aurait pu jouer de chaînon entre les uns et les autres. Chérif Kouachi va partir avec un autre djihadiste appelé à passer à la postérité, Salim Ben Ghalem, qui lui rejoindra plus tard l'État islamique, va partir à l'été 2011 à Oman officiellement et vraisemblablement donc vont au Yémen. On sait que dans les mois et les années qui suivent, le service de renseignement américain va alerter à plusieurs reprises les services français en disant « Attention, il y a un attentat qui se prépare sur votre sol » et Peter Chérif, depuis le Yémen, serait à la manœuvre.
Mathieu Suc, journaliste à Mediapart, spécialiste de la filière dite des Buttes-Chaumont, joint par Frédéric Carbone. La lutte contre les djihadistes en Syrie, cette fois, c'est une mission accomplie aux yeux de Donald Trump. Nous vous en parlions dans ce même journal hier. Le président des États-Unis a décidé de retirer les troupes américaines de Syrie. Une grave erreur, selon le chef du Pentagone. Le général Jim Mattis claque la porte de l'administration Trump. Une démission de plus. Dans une lettre rendue publique hier soir, Jim Mattis ne fait pas mystère de son désaccord profond avec le locataire de la Maison Blanche et ce, depuis des semaines. Les précisions à Washington de Gregory Phillips.
La lettre de démission est datée du jeudi 20 décembre, hier, soit dès le lendemain de l'annonce par Donald Trump du retrait des troupes américaines de Syrie. Le général Jim Mattis écrit ceci. « Parce que vous avez le droit d'avoir un ministre de la Défense dont les vues sont mieux alignées sur les vôtres, je pense que me retirer est la meilleure chose à faire. » En vérité, depuis des mois, le ministre démissionnaire expliquait que se retirer de Syrie serait une bourde stratégique et qui laisserait toute la place à la Russie et à l'Iran dans la région. L'ancien général des Marines, âgé âgé de 68 ans, claque donc la porte quelques jours seulement après le général Kelly, qui lui quittera ses fonctions de chef de cabinet à la fin de l'année. À la Maison Blanche, ces deux généraux étaient perçus comme les voix de la raison auprès du président, notamment sur les questions de sécurité nationale. En cette fin d'année, le Pentagone n'a plus de patron, le chaos semble régner à la Maison Blanche, les proches du président le quittent les uns après les autres, alors que Donald Trump, selon deux journaux, le New York Times et le Wall Street Journal, pourrait très vite annoncer aussi un retrait partiel d'Afghanistan. Selon un responsable militaire cité par ces deux médias, la décision a été prise mardi, celle d'un retour à la maison pour environ la moitié des 14 000 soldats américains déployés dans ce pays.
Grégory Phillips à Washington pour France Culture. Et dans sa lettre de démission, encore comme une dernière supplique à Donald Trump, le général Mattis insiste sur la nécessité pour les États-Unis de traiter leurs alliés avec respect. Parmi eux, plusieurs pays de l'Union européenne inquiets du retrait des troupes américaines de Syrie. Bertrand Galichet.
Même si tous ne l'expriment pas ouvertement, plusieurs pays européens cachent mal leur consternation. La ministre française de la Défense observe que Daesh et ses racines ne sont pas rayées de la carte. Il faut vaincre militairement de manière définitive les dernières poches de cette organisation terroriste, dit Florence Parly. Pas question pour l'instant de renoncer aux frappes aériennes françaises contre l'État islamique, ni aux tirs d'artillerie opérés depuis l'Irak, ou encore à la présence de forces spéciales. Mais le revirement de Donald Trump rebat les cartes. Au Quai d'Orsay, on assure que les États partenaires de la coalition, dont la France, parlent avec Washington du calendrier de retrait des forces américaines. La préoccupation immédiate de la diplomatie française étant la protection des civils kurdes dans le nord-est de la Syrie. Deux responsables politiques kurdes de la région seront reçus aujourd'hui à Paris. À Berlin, le chef de la diplomatie allemande Heiko Maas craint que le retrait américain nuise au combat contre les djihadistes. À Londres, le Foreign Office insiste sur la menace persistante de l'organisation État islamique et le secrétaire d'État à la Défense exprime sa désapprobation. Selon lui, Daesh s'est transformé en d'autres formes d'extrémisme et la menace reste très présente. Enfin, par son porte-parole, Theresa May dément avoir été mise devant le fait accompli et assure que des discussions avec Washington sur ce sujet ont lieu depuis plusieurs jours.
Les multiples facettes du terrorisme, alors que les corps de deux touristes norvégiennes et danoises ont été découverts lundi dans une vallée du massif du Haut-Atlas au Maroc, le procureur de Rabat a estimé hier que les quatre hommes interpellés pour ce meurtre avaient prêté allégeance au groupe État islamique. Le procureur a confirmé l'authenticité d'une vidéo relayée hier sur les réseaux sociaux. Un nouveau rebondissement judiciaire dans l'affaire Carlos Ghosn, le patron déchu de l'Alliance Renault-Nissan, a fait l'objet ce matin d'un troisième mandat d'arrêt au Japon pour abus de confiance. Le parquet lui reproche d'avoir imputé sur les comptes de la société des pertes d'investissement personnel.
7h08 sur France Culture, la suite du journal de Catherine Dutu. Après plus de 13 heures de vifs débats, l'Assemblée nationale a voté cette nuit les mesures d'urgence du gouvernement censées répondre à la crise des gilets jaunes.
Avant un examen aujourd'hui au Sénat en vue d'une adoption définitive, le projet de loi sur les mesures d'urgence économiques et sociales a donc été approuvé cette nuit par 153 voix, 58 abstention du PS et des LR, notamment 9 voix contre, celle des communistes et des insoumis, mais aussi de Sébastien Nadeau, député LREM de Haute-Garonne. Il estime que le projet de budget 2019 ne tient pas assez compte des réalités de terrain ni des besoins de la transition écologique. Il a été dans la soirée exclu du groupe En Marche, une première, on y revient dans le journal de 7h30. Jean-Claude Gaudin, le maire de Marseille, une fois de plus, sous le feu nourri de l'opposition et des manifestants hier, qui réclame sa démission un mois et demi après l'effondrement d'immeubles vétustes du centre-ville qui avait fait 8 morts. Jean-Claude Gaudin a présidé hier un conseil municipal dans une ambiance très tendue, Cécile Blotin.
Oui, Jean-Claude Gaudin, très critiqué depuis le drame de la rue d'Aubagne pour son silence, que certains ont même qualifié d'indifférence. Mais pas question, dit-il en ouvrant le débat, de se dérober.
J'ai entendu les douleurs, les colères et les critiques. Et j'ai fait face dans la tempête avec la charge considérable du capitaine qui doit remplir sa mission. Et je continuerai à le faire.
Le maire de Marseille, qui a par ailleurs annoncé son intention de demander la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. Mais pour la socialiste Samia Ghali, cela reviendrait à dire aux victimes que ce qui est arrivé est la faute de la pluie, un déni de réalité.
On ne peut pas dire d'un côté qu'il faut laisser la justice faire son travail et de l'autre côté dire que c'est une catastrophe naturelle. Si on arrive à dire que c'est une catastrophe naturelle, ça voudrait dire qu'alors là, il n'y a pas de responsable et seulement la pluie et peut-être le ciel. Non, ça, ce n'est pas entendable.
Après plus de 3 heures de reproches, de critiques et d'invectives de part et d'autre, le maire de Marseille, en conclusion, en appelle aux élus de tous bords pour qu'un tel drame ne se reproduise jamais.
Les 8 victimes du 5 novembre me hanteront toujours. Alors répondons, si nous le pouvons, tous ensemble, au défi que nous lance leur mémoire. C'est l'hommage que leur doit le maire et que leur doit la ville de Marseille.
Jean-Claude Gaudin au micro de Cécile Blotin de France Bleu Provence. Depuis l'effondrement de ces deux immeubles à Marseille en novembre dernier, plus de 1500 personnes ont été évacuées dans des hôtels. En parallèle, des experts particuliers profitent de cette situation pour faire expertiser les logements vétustes en vue d'un éventuel rachat. Le drame du logement à Marseille, une aubaine pour qui ? C'est une enquête documentaire de Pascal Pascariello réalisée par Cécile Lafont pour Les Pieds sur Terre de Sonia Kronlund à réécouter sur France culture.fr. Et puis à suivre à 7h24 la chronique interactive du vendredi, ma vie dans un taudis, hashtag mon logement indigne. C'est un reportage d'Antoine Marette à suivre donc à 7h24. Quand la musique sert de pont entre les deux côtés du Rhin, l'orchestre philharmonique de Radio France rentre d'une tournée triomphale en Allemagne et jouera ce soir à l'auditorium de la Maison de la Radio à Paris. Le programme qu'il a offert au public allemand ces derniers jours, le reportage à Hambourg de notre correspondant Ludovic Piétenu.
Une salle toute jeune mais déjà mythique, plus de 2000 spectateurs sous le charme, comme Jacques, venu de La Rochelle, visiter sa sœur Brigitte qui vit à Hambourg.
C'est beaucoup d'émotions, c'est la musique qu'on n'entend pas tout le temps en plus, c'est pas des morceaux très très connus. L'acoustique vraiment exceptionnelle, le moindre petit bruit, la moindre petite sensation, c'est décuplé quoi, c'était vraiment très très bien. Quoi.
C'était sensationnel.
Au violoncelle, Sol Gabetta, la soliste, compare cette philharmonie de Hambourg à l'auditorium de la Maison de Radio France.
Avec la différence qu'ici on se sent un peu comme dans un studio de haute gamme, parce qu'on entend tout, même ce qui se passe dans le public, et je pense que le public entend tout ce qui se passe dans la scène, c'est les gens toussent beaucoup à cette époque-là, tout le monde est malade, donc évidemment c'est toujours le but quand on joue en décembre, janvier, février, d'essayer d'avoir un public qui soit plutôt sain, qui soit pas malade.
Répondant à l'invitation de son arrière-grand-père qui fête ses 85 ans, qui a acheté pas moins de 120 places ce soir-là, il y a cette jeune Allemande, Maria, conquise.
Après l'entracte, tout était encore plus harmonieux et j'ai ressenti la musique beaucoup plus profondément. Et ce solo de Sol Gabetta était incroyable. Avec cette voix, avec elle qui chante, c'était une très belle surprise.
Avec un programme musical plutôt joyeux et tricolore, Hélène Collerette est premier violon sur cette tournée.
On espère apporter un petit peu de bonheur à la française, au public, on va dire, avec un programme qui est assez français. Tout le monde connaît ou a entendu sans savoir que c'est de lui l'apprenti sorcier, ne serait-ce que par Fantasia.
Le public allemand de cette merveilleuse philharmonie de l'Elbe a été conquis, place ce soir au public français.
Reportage signé Ludovic Piétenu en Allemagne pour France Culture. Le temps de ce vendredi 21 décembre, très pluvieux, plus lumineux. En revanche, près de la Méditerranée, les températures sont comprises entre 3 et 8 degrés en général. Un peu plus frais dans le sud-est avec de moins 1 à 5 degrés. 9 à 12 sur la façade atlantique.